en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, bien sûr, je voudrais d'abord vous dire combien je suis honorée de faire cette communication devant vous et combien je vous suis reconnaissante de me donner cette occasion de vous présenter mes travaux et mes recherches. Je voudrais bien sûr remercier tout particulièrement le Président Bertrand Collomb. Oh là là, je vous montre ça trop vite, ça va trop vite. Qui m'a proposé de venir présenter mes travaux dans votre noble assemblée. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui, ça m'ennuie de tourner le dos à la moitié de la salle, donc je vais faire comme ça avant de passer au PowerPoint. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a hanté les deux dernières campagnes présidentielles et qui, implicitement ou explicitement, constitue un élément central de nos débats, la question des attitudes des Français vis-à-vis du travail. Alors, beaucoup de choses ont été dites ces dernières années sur ce sujet. On a beaucoup entendu que les Français n'aimeraient plus le travail, qu'ils lui préféreraient le loisir, et que c'est ce qui expliquerait finalement la différence de niveau de vie entre les Français et les Américains. En fait, on nous a expliqué que c'est notre appétence pour le loisir qui serait peut-être à l'origine de notre déclin, si déclin il y a, que nous n'aimerions plus le travail, que la valeur travail aurait été dégradée et qu'il nous faudrait donc la réhabiliter. Les signes de cette dégradation, ce seraient les pré-retraites à l'époque, il y a 20 ans, les 35 heures, l'assistance aujourd'hui. Et nos politiques publiques auraient en quelque sorte réussi à s'adapter à la nature humaine, à la nature profonde de l'homme, et à rendre collectives ses préférences individuelles. En gros, nous aurions cessé d'aimer le travail, de vouloir nous construire grâce à lui, de souhaiter transformer le monde grâce à lui, et les jeunes seraient les plus atteints par cette langueur, ils seraient devenus aussi détachés du travail, indifférents, à moins qu'ils n'appartiennent à cette fameuse génération Y dont les contours sont si mal définis. Alors, est-ce que cette vision est exacte? Est-ce cela que nous révèlent les enquêtes dont nous disposons? Je voudrais vous proposer une communication en trois points. Dans un premier moment, j'aimerais revenir sur l'histoire de la valorisation du travail, l'histoire de la valeur travail, parce que évidemment, il y a eu d'immenses changements et nous sommes passés d'un travail méprisé, d'un travail très pallium, à un travail épanouissement qui est aujourd'hui l'activité la plus désirée par tous. Ensuite, je vous présenterai, c'est pour ça qu'on est dans cette salle, je ne dis pas du tout que, je vous rassure, ça n'est pas pour ma personne, mais c'est parce que je souhaitais vous présenter un PowerPoint. Je vous présenterai les principaux résultats des enquêtes européennes sur cette question. Et puis, dans un dernier moment, je m'interrogerai sur les solutions à ce qui peut apparaître comme un malaise français. Alors, je voudrais faire un bref retour sur l'histoire de la valeur travail, la longue histoire de la valeur travail, et j'ai choisi comme guide pour cela Jean-Pierre Vernant, qui nous conjure de ne pas lire le passé avec nos lunettes de moderne, et qui écrit notamment, je cite, « De même qu'on n'a pas le droit d'appliquer au monde grec les catégories économiques du capitalisme moderne, on ne peut projeter sur l'homme de la cité ancienne la fonction psychologique du travail telle qu'elle est aujourd'hui dessinée. » Ma thèse est que notre concept actuel de travail, loin d'être une catégorie anthropologique, un invariant qui aurait subsisté à travers les siècles avec tous ses attributs, est au contraire le résultat d'une histoire. Et je crois qu'on peut défendre que notre concept actuel de travail, c'est le point d'aboutissement d'un processus au cours duquel plusieurs couches de signification, j'emploie le terme qu'employait Ignace Meyerson en 1955, dans le numéro spécial du journal de psychologie normale et pathologique consacré au travail, donc au cours duquel plusieurs couches de signification se sont en quelque sorte sédimentées les unes sur les autres au cours des siècles, c'est-à-dire sans se substituer les unes aux autres. Elles se sont ajoutées. Et ce qui signifie que l'idée que le travail serait une activité à travers laquelle les êtres humains peuvent transformer le monde et se transformer eux-mêmes est radicalement moderne, à mon avis. Elle ne date que du début du XIXe siècle. Donc, je fais un bref parcours à travers les siècles en partant d'il y a très longtemps, puisqu'il fut un temps, il fut des lieux où le concept de travail, je crois qu'on peut le dire, n'existait pas, ou plutôt où aucun concept ne parvenait à subsumer sous une signification unique, des activités irréductiblement différentes. Les anthropologues nous ont rappelé que la notion de travail n'était pas universelle, que quantité de sociétés semblaient ne pas en avoir eu besoin, et qu'on ne trouvait nulle part lié dans un unique concept l'ensemble des notions et des significations auxquelles notre concept de travail renvoie. Quant à Vernant, il souligne à son tour qu'on trouve, par exemple, en Grèce ancienne, des métiers, des activités, des tâches, mais qu'on chercherait en vain le travail. Les activités sont au contraire classées dans des catégories irréductiblement diverses qui interdisent, dit-il, de considérer le travail comme une fonction unique. Et si les artisans ne peuvent pas être des citoyens, vous vous souvenez qu'Aristote interdit que les artisans soient des citoyens, c'est non seulement parce que la dépendance dans laquelle la vente de leurs produits les enferme, les prive de la liberté qui leur permettrait de participer à la délibération commune, mais aussi parce que le lien qui unit les citoyens est d'une nature radicalement différente du lien économique, c'est le lien politique. Alors en simplifiant outrageusement, et devant vous qui êtes qui comptez de grands spécialistes, je vous demande de me pardonner, hein, on peut soutenir que tout au long de la domination de l'Empire romain et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la représentation de ce que nous appellerons plus tard le travail n'a pas connu de bouleversement majeur. La classification des activités présentées par Cicéron, puis la classification médiévale des arts reprendront les distinctions à l'œuvre chez les Grecs. Et si Saint-Augustin autorise un début de comparaison entre l'opus divin et l'opus humain, si saint Thomas met au cœur de sa réflexion l'utilité commune, si Luther, Calvin et Baxter contribuent à une réinterprétation radicale des Écritures et mettent l'éthique du travail, selon Max Weber, au cœur de la modernité, je crois qu'on peut dire que tant que les représentations philosophiques et religieuses sont restées ce qu'elles étaient, c'est-à-dire tournées vers l'au-delà, le travail ne pouvait être ni valorisé, ni émerger comme catégorie homogène. Au contraire, je crois qu'on peut soutenir que l'usage de l'article défini, le travail, va pouvoir intervenir seulement au XVIIIe siècle, notamment avec l'ouvrage magistral de Smith, hein, et en tout cas va commencer à se forger au XVIe puis au XVIIe, comme l'a rappelé Lucien Febvre dans « Civilisation, le mot et l'idée ». À partir du XVIIIe siècle, je crois qu'on peut dire que trois grandes couches de signification vont contribuer à constituer notre concept moderne de travail. Le travail va être successivement défini comme « facteur de production », comme l'essence de l'homme, puis comme pivot du système de distribution des revenus, des droits et des protections. Je vous en dis quelques mots pour illustrer chacune de ces époques et pour illustrer surtout le fait que, au terme de ce processus, nous allons nous retrouver avec un concept de travail qui comporte des dimensions et des significations contradictoires. Le XVIIIe siècle, je l'ai dit, c'est celui où le terme de travail trouve son unité comme travail abstrait. Chez Smith, le travail est détachable, marchand, abstrait. Et la définition qu'en donne Adam Smith dans les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations est purement instrumentale. Smith ne s'intéresse pas à l'activité concrète de travail. Il nous dit que le travail, c'est ce qui crée de la valeur. Et c'est cette valeur, c'est cette richesse qui l'intéresse, pas l'activité de travail. Et le travail, c'est non seulement cette activité qui permet de fabriquer la production, mais c'est aussi l'élément qui va favoriser, sans doute permettre véritablement, la stabilisation de l'ordre social, un ordre social qui, durant les siècles précédents, a été considérablement remis en question. Mais pourtant, chez Smith, le travail n'est pas valorisé, n'est pas glorifié, il reste synonyme de peine, de sacrifice, de fatigue. Sur ce premier niveau, le début du XIXe siècle installe une seconde couche de signification qui n'a strictement rien à voir. Au XIXe siècle, on voit apparaître dans les textes français et dans les textes allemands, je pense notamment bien sûr à Hegel, l'idée que le travail, c'est une liberté créatrice, la liberté créatrice de l'homme, grâce à laquelle l'homme, l'être humain, plutôt, disons-le, transforme le monde dans lequel il se trouve, détruit le naturel qu'il a en face de lui et met à la place de l'humain. Et se transforme également lui-même. Donc c'est une véritable révolution conceptuelle et je crois que c'est là que se forge notre idée moderne du travail, notre idée prométhéenne du travail, celle-là même que nous projetons sur les siècles précédents lorsque nous disons que les hommes ont toujours travaillé ou ont toujours modifié leur milieu. En Allemagne, C'est l'idéalisme allemand, et notamment Hegel, qui vont donc fonder philosophiquement l'idée que le travail est l'essence de l'homme. Marx, remettant sur ses pieds le processus hegélien, va assimiler complètement l'activité humaine et le travail, c'est-à-dire que la vraie activité humaine a pour nom travail chez Marx, et le travail va donc être désormais conçu dans son essence et rêvé comme épanouissement de soi et moyen du développement de toutes les facultés humaines. Or, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, s'installe une troisième couche de signification. Qui va porter, me semble-t-il, à son acmé, le caractère totalement contradictoire de la notion. Pourquoi ? La fin du XIXe siècle, je parle bien sûr exclusivement des sociétés occidentales, la fin du XIXe siècle, c'est le moment où la pensée socialiste, mais aussi la pensée libérale, adopte cette vision du travail comme valeur créatrice et émancipatrice, mais sans plus y mettre les conditions que Marx y avait mise pour que le travail soit le premier besoin vital ou un vecteur d'épanouissement. C'est-à-dire que, vous vous souvenez que Marx, subordonnait la possibilité que le travail devienne le premier besoin vital et devienne un travail œuvre à l'abolition du salariat. Or, à la fin du XIXe siècle, ce qui se passe, c'est que l'idée que le travail est la valeur essentielle est bien accepté par tous, mais sans que les conditions qui avaient mises Marx, c'est-à-dire l'abolition du salariat, soient mises en œuvre. Bien au contraire, on va renforcer le lien salarial, et c'est sur le salariat que l'on va installer le droit du travail, le droit de la protection sociale, le droit de consommer. Et c'est là que je dis qu'il y a bien sûr une très forte contradiction, parce que l'époque reste persuadée que le travail peut être une œuvre et peut être un moyen complet d'épanouissement de soi-même, mais non plus en exigeant l'abolition du salariat, mais à l'intérieur du salariat lui-même. Et donc, la contradiction par rapport à la pensée de Marx est complète, parce que le discours social-démocrate soutient que le travail va devenir épanouissant, alors que c'est maintenant de l'augmentation des salaires et de l'augmentation de la consommation que va venir le caractère désirable du travail, puisque désormais l'intérêt du travail réside dans sa capacité à garantir des revenus décents et dans le fait qu'il donne accès à un pouvoir de consommation toujours plus grand. Habermas, en 1990, écrira d'ailleurs, revenant sur toute cette période, « Le citoyen est dédommagé pour la pénibilité qui reste, quoi qu'il en soit, attaché au statut de salarié, même s'il est plus confortable. Il est dédommagé par des droits dans son rôle d'usager des bureaucraties mises en place par l'État-providence et par du pouvoir d'achat dans son rôle de consommateur de marchandises. » Donc le XXe siècle va hériter d'un concept de travail qui est composé de plusieurs dimensions, complètement contradictoire, parce que dans l'idée que le travail est un facteur de production, je m'intéresse à la valeur, à la richesse créée par le travail et pas du tout à l'activité de travail. C'est-à-dire, peu importe à la limite la manière dont est traité le travailleur qui est à l'origine de la production. Dans le deuxième concept, dans la deuxième dimension, le travail comme essence de l'homme, ce qui est particulièrement important, c'est la manière dont l'activité permet aux hommes, aux êtres humains, de s'épanouir, de s'exprimer, de se réaliser, de transformer le monde dans lequel ils se trouvent. Quant à la troisième dimension du travail, c'est-à-dire la société salariale, le fait que le travail est le pivot du système de distribution des revenus, des droits et des protections, il semble également contradictoire avec la deuxième dimension, même si ce n'est pas absolument nécessaire. Je termine cette première partie sur une citation, si vous me permettez, du jeune Marx, seulement du jeune Marx, mais que je trouve très intéressante parce que j'ai l'impression que notre époque, aujourd'hui, reprend pleinement cette citation de Marx. Marx écrit dans les manuscrits de 1844 « Supposons que nous produisions comme des êtres humains, chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l'autre. Dans ma production, je réaliserais mon individualité, ma particularité. » Je saute quelques passages. À la fin, il nous dit « Nos productions seraient comme autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. » Il y a donc, dans ce moment décrit par Marx, l'espoir infini que le travail pourra devenir une œuvre, et pourra devenir une œuvre au point où lorsque je travaille, je vous montre une petite image de moi-même, je vous montre qui je suis exactement, j'exprime dans le travail la totalité de ma singularité. Donc, on voit bien que la dimension expressive du travail, elle apparaît ici en pleine lumière, hein. Dans mon travail, j'exprime à la fois mon individualité, ma singularité et mon appartenance au genre humain tout entier. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que les Français, je ne dis pas que les Français sont marxistes, ni que les Européens sont marxistes, mais qu'aujourd'hui, nous sommes porteurs, et nous, peut-être en France, encore plus qu'ailleurs, de cet espoir posé sur le travail, c'est-à-dire d'un travail qui nous permettrait vraiment de dire aux autres qui nous sommes et de participer au genre humain. Et je passe donc à ce que je voulais vous présenter. Alors, d'un mot, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Je vais vous présenter le résultat d'exploitation d'enquête européenne qui parle du rapport au travail. Alors il y a l'International Social Survey, l'European Social Study, l'European Social Survey, enfin beaucoup d'enquêtes qui comportent plusieurs vagues que nous avons exploitées à l'occasion d'un programme de recherche européen réalisé avec 5 autres pays européens et à l'occasion duquel nous avons également été rechercher toute la littérature nationale et également nous avons passer nous-mêmes un certain nombre d'entretiens dans nos pays. Alors, que voit-on lorsqu'on regarde les résultats de ces enquêtes ? Premier message qu'il nous apporte, c'est que le travail est important dans tous les pays européens. Vous voyez, ici, c'est une question qui est posée par l'European Social Study. Dans votre vie, le travail est-il important ? Alors, je ne souligne pas ici les limites évidentes et nombreuses de toutes ces enquêtes. Hein, le fait que les gens ne comprennent évidemment pas la même chose lorsqu'on leur pose la question, le fait que les traductions peuvent être mauvaises, et surtout le fait, vous voyez, que cette notion d'importance est quand même éminemment floue. Quoi qu'il en soit, nous avons développé, bien sûr, toutes ces limites dans le livre que nous avons écrit avec Patricia Vindramin. Quoi qu'il en soit, à cette question assez simple, dans votre vie, le travail est-il important ? Ce que l'on voit en bleu foncé, c'est les personnes qui répondent qu'il est de fait très important, ensuite en bleu clair, assez important, et puis pas très important et pas important du tout. Ce qu'on voit au premier abord, ça, c'est un tableau de la vague 99. Ce que l'on voit ici, c'est qu'un grand nombre de pays considèrent que le travail est très important, mais on voit une deuxième chose, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité. Hétérogénéité notamment, une polarisation, entre d'une part, vous le voyez, des pays comme le Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, où la population se monte seulement à 40% pour dire que le travail est très important, et puis la Pologne, Malte, la Roumanie, la Lettonie et, très curieusement, la France, où entre 70 et 80% des personnes disent que le travail est très important. Alors mon interrogation porte à la fois sur les raisons de cette hétérogénéité européenne et sur la position très curieuse de la France, vous voyez, avec la Lettonie, la Roumanie, Malte et la Pologne, et ça ne dépend pas de la date de passation de cette enquête, puisqu'il en va de même, ici je vous montre les résultats 2008, donc la dernière vague que nous possédons de l'EVS, où il en va de même, vous voyez qu'en noir ce sont les pays qui répondent que le travail est très important et puis ensuite le dégrader avec donc de moindres intensités. Et vous voyez là encore que le positionnement relatif des pays que l'on voyait en 99 est à peu près repris puisqu'on a d'un côté la Finlande, la Lituanie, le Royaume-Uni, l'Estonie, les Pays-Bas, la Suède, le Portugal et de l'autre Chypre, Malte, la Grèce, le Luxembourg et la France qui sont à nouveau à des taux extrêmement importants, hein, plus de 70% de personnes qui nous disent que le travail est très important. Et alors j'ai également utilisé, voilà, j'ai également été chercher après une discussion avec votre président, le World Social Survey, qui nous permet d'amener dans la comparaison d'autres pays que les pays européens. Et vous voyez là qu'on a la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Finlande, le Brésil, la Chine, la Russie et l'Allemagne. Et que la France, qui est en vert d'eau tout en haut, continue, vous voyez, dans Very Important, à être tout à fait en tête du palmarès. Alors évidemment, bien devant la Grande-Bretagne, qui continue à être vraiment peu, peu conduite à dire que le travail est très important, suivie par les États-Unis, le Canada, le Japon, la Finlande. Et puis, vous voyez, il n'y a guère que le Brésil pour atteindre des niveaux aussi importants que nous. Alors, évidemment, la question que nous nous sommes posés à la lecture de ces résultats, c'est de comprendre à la fois, je vous disais, l'hétérogénéité, mais aussi la particularité de la position française. Alors, on a essayé de chercher dans de nombreuses directions. Alors, il peut y avoir, les explications peuvent être liées à des effets de composition, c'est-à-dire la population n'est pas composée des mêmes personnes. Il y a parfois, dans certains pays, plus de femmes au foyer, ou plus de retraités, ou plus d'étudiants. Mais je vous dis tout de suite que malgré la prise en considération des effets de composition, les différences restent extrêmement fortes. Alors, on peut penser, je reviens à la diapo peut-être précédente, où on voit mieux les choses, on peut penser qu'il y a un rapport avec le niveau de richesse, notamment le niveau de PIB par habitant, et il est vrai que dans un certain nombre de pays, il y a un rapport entre une corrélation négative entre le niveau de PIB par habitant, donc le niveau conventionnellement considéré comme représentant la richesse d'un pays, donc entre le niveau de PIB et l'idée que le travail est très important. C'est-à-dire que ce qu'on voit pas mal développé sur cette diapositive, c'est que les pays qui ont le plus gros PIB par habitant seraient les plus conduits à dire que le travail n'est pas très important et moins important. Alors c'est vrai pour un certain nombre de pays, mais évidemment c'est pas vrai pour la France, puisque la France conserve quand même un PIB par habitant élevé. Alors il y a une autre explication qui marche et qui marche sur la totalité des pays et qui s'applique évidemment à la France, c'est le taux de chômage, c'est-à-dire que dans la totalité des pays, il y a un lien fort, une corrélation positive entre le taux de chômage et la très grande importance accordée au travail. Donc les pays qui présentent les plus hauts taux de chômage depuis le plus longtemps présentent également des degrés très élevés d'attachement au travail. Alors il y a une deuxième, je ne sais pas si on peut la considérer comme une explication, mais une deuxième spécificité française sur laquelle je voudrais maintenant que l'on s'arrête, ce sont les dimensions expressives du travail. Alors dans le jargon des enquêtes européennes, ça s'appelle l'intérêt intrinsèque du travail. Ça s'oppose aux dimensions instrumentales du travail. Dimension instrumentale, j'aime le travail parce qu'il me rapporte un revenu ou parce qu'il me donne de la sécurité de l'emploi ou parce qu'il me donne des droits. Intérêt intrinsèque ou dimension, si on suit Ronald Engelhardt, on peut appeler ça les dimensions post-matérialistes du travail. Donc là, on voit une France qui est tout en haut, qui plébiscite en quelque sorte les dimensions expressives du travail. Alors, la France n'est que l'avant-garde, je dirais, d'un changement majeur qui s'est opéré au cours du XXe siècle. J'ai sauté cette étape tout à l'heure. D'un changement majeur qui s'est opéré au cours du XXe siècle, qui est le passage d'une éthique du travail peine à une éthique du travail épanouissement, ou du moins à une conception du travail épanouissement, c'est-à-dire dans la très longue histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, on est passé de l'absence de concept du travail ou d'un travail peine, d'un travail difficile, d'un travail fatigue, à un travail épanouissement. C'est-à-dire que, c'est ce que nous raconte ou Engelhardt ou encore le sociologue Christian Lalive d'Épinay, à partir notamment de la deuxième moitié du XXe siècle, je dirais que le rêve de Marx ou le rêve du XIXe siècle, c'est-à-dire que le travail devienne un vecteur d'épanouissement, a pu devenir réalité. Et donc ce que l'on voit là, c'est en effet que la France est en quelque sorte le leader de ses attentes en matière d'expression de soi et de réalisation de soi, de la population dans le travail. Deux dimensions sont importantes hein, lorsqu'on interroge les gens. Les dimensions expressives, mais aussi les dimensions relationnelles. Et qu'est-ce que ça recouvre, les dimensions relationnelles ? C'est pas l'attachement à la société en général, c'est l'attachement à la petite équipe avec laquelle on travaille au quotidien, avec laquelle on forme un collectif et avec laquelle, en gros, on passe toutes ces journées. Donc, deuxième spécificité française, un attachement important aux dimensions expressives et relationnelles du travail, au contenu du travail, à l'activité de travail, à la variété de travail. Alors, qui est particulièrement porteur de ces dimensions ? Eh bien, ce que nous avons vu, c'est qu'en Europe, les jeunes étaient particulièrement porteurs de ces dimensions. Voilà une question deux questions même, qui illustrent le rapport, qui qualifie le rapport des personnes au travail pour savoir si ce rapport est plutôt instrumental ou plutôt post-matérialiste. Vous voyez, là, on a coupé les générations en trois tranches, les moins de 30 ans, les 30-50 ans et les plus de 50 ans, et on a regardé comment ils répondaient à un certain nombre de questions permettant d'illustrer un rapport plus ou moins instrumental au travail. Alors, vous voyez, la colonne de gauche, c'est « je serais content d'avoir un emploi rémunéré, même si je n'avais pas besoin d'argent ». Et là, les jeunes sont plus nombreux que les autres à répondre « oui ». De même, est-ce qu'un emploi est juste un moyen de gagner de l'argent et rien d'autre, ce qui illustre normalement dans les enquêtes le caractère très instrumental du travail ? Eh bien, les jeunes sont moins nombreux à dire qu'un emploi, c'est juste un moyen de gagner de l'argent et rien d'autre. Donc, on voit ici que commence à être remise en cause cette idée que les jeunes seraient détachés du travail. Non, ils ont des attentes très fortes, des attentes expressives. À l'égard du travail. Et là, je vous invite à regarder la troisième colonne, quelle est l'importance d'un emploi intéressant. Et vous voyez là encore que les jeunes sont plus nombreux à considérer qu'avoir un emploi intéressant, c'est très, très important. Et puis, dernière chose, peut-être encore moins attendue, hein, quelle est l'importance de venir en aide aux autres personnes ou d'être utile à la société ? Eh bien, voilà, les derniers clichés là sont en quelque sorte mis à bas, puisque les jeunes sont plus nombreux à souhaiter que dans leur travail, ils puissent venir en aide aux autres personnes et être utiles à la société. Néanmoins, ces attentes, hein, je crois qu'on voit que donc, en France, les attentes à l'égard du travail sont particulièrement immenses, sont particulièrement intenses, et que les jeunes, va ici pour mieux attirer votre attention, que les jeunes, loin d'être différents des autres tranches d'âge, ont les mêmes attentes à l'égard du travail que les autres tranches d'âge, mais simplement en plus intense. Voilà. Ils attendent encore plus intensément que les autres du travail, à la fois un revenu, mais également la possibilité de se réaliser et de s'exprimer. Mais alors, ces immenses attentes se heurtent particulièrement en France, je dirais, à la réalité du travail. Et en tout cas, voilà, c'est ce que nous avons appelé le paradoxe français. Hein. Alors que les Français sont les plus nombreux à indiquer que le travail est très important, ils sont également les plus nombreux, c'est le même pourcentage, hein, 65% à peu près dans les deux cas. Vous voyez, la France est à l'extrême droite, là. Est-ce que ça serait une bonne chose que le travail prenne une place moins grande dans notre vie ? Les Français sont les plus nombreux à déclarer que ça serait une bonne chose. Alors comment peut-on expliquer ce qui apparaît tout de même à première vue comme un paradoxe ? Paradoxe, je propose deux grandes explications, deux grandes catégories d'explications. Une première catégorie plutôt négative. Les personnes ont envie que le travail prenne une place moins grande parce que le travail est devenu particulièrement insupportable pour certains d'entre eux. Et deuxième catégorie d'explication, ça serait une bonne chose que le travail prenne une place moins grande parce qu'il y a dans la vie d'autres activités extrêmement importantes à prendre en considération, par exemple les activités familiales ou les activités sociales. Je m'arrête donc, j'illustre la première catégorie d'explication, c'est-à-dire le fait que c'est la médiocrité des relations sociales et des conditions d'exercice du travail et de l'emploi en France qui explique ce relatif retrait vis-à-vis du travail et ce souhait que le travail prenne une place moins grande dans notre vie. Je l'illustre avec trois ou quatre diapositives. Première diapositive, le pourcentage de personnes décrivant les relations entre la direction et les employés comme très bonnes ou assez bonnes. Vous voyez que la France se situe au plus bas, et ça, je crois que vous êtes plusieurs d'entre vous sont très, très bien placés pour connaître
cela, la médiocrité de la qualité des relations entre la direction et les employés en France, ça a été encore confirmé par des enquêtes plus récentes. C'était l'explication principale que Thomas Philippon avait mis au centre de son ouvrage en 2007 pour expliquer le malaise au travail français. Nous avons considéré, je dis nous parce que c'est un travail collectif en grande partie que je vous présente, nous avons considéré que cette explication ne suffisait pas du tout et que si cette question était très importante, il y avait d'autres dimensions qui l'étaient tout autant. Ici, je vous montre une autre question issue de l'International Social Survey Programme. C'est le pourcentage de personnes qui estiment que leur travail est toujours ou souvent stressant. Vous voyez que la France bat des records. Alors, bien sûr, 47%, ça paraît énorme, et ce pourcentage est différent dans d'autres enquêtes. C'est simplement parce qu'on ne pose pas la question de la même façon. Il y a des filtres différents dans les différentes enquêtes. Mais quoi qu'il en soit, on le verra tout à l'heure, la France bat toujours des records, c'est-à-dire présente toujours des réponses plus élevées à cette question du stress au travail. Et puis là, c'est un indicateur synthétique, hein, c'est le pourcentage de personnes qui se déclarent complètement satisfaites ou très satisfaites. Et vous voyez que la France est à l'extrême gauche, cette fois-ci, en toute petite colonne. C'est-à-dire que si on fait la somme de toutes les opinions vis-à-vis du travail, on arrive à un indicateur synthétique qui, vraiment, pour la France, n'est pas bon. Et là, attention, je vais vous écraser sous une avalanche de chiffres. Non, ils vont venir les uns après les autres. Issus de l'enquête sur les conditions de travail de la Fondation de Dublin, c'est l'agence européenne qui s'occupe des conditions de travail, qui fait tous les 5 ans une grande enquête en Europe sur les conditions de travail. Ce sont donc les derniers résultats dont nous disposons. C'est l'enquête 2010. Et voilà ce que nous dit cette enquête 2010. Et qui, pour moi, illustre la médiocrité des conditions de travail et d'emploi en France. Selon cette enquête, 27% des salariés français sont stressés dans leur travail. Je vous ai mis des pourcentages susceptibles d'illustrer la mauvaise position de la France avec des pays qui sont équivalents. Hein. Donc, vous voyez, Pays-Bas 10%, Danemark 12%, Finlande 15%. 54% des Français déclarent souffrir d'une fatigue générale. Et seuls les Estoniens se sentent plus fatigués que les Français. 51%, donc ça me paraît également très important, ce troisième chiffre, hein, 51% indiquent qu'ils sont consultés en cas de réorganisation de leur travail, et c'est bien moins qu'aux Pays-Bas, en Irlande ou au Danemark. C'est un chiffre qui ressemble au précédent, hein, pour montrer que les salariés ont peu de prise sur leur travail, sont peu impliqués dans la décision. Hein, 31% qui déclarent pouvoir influencer les décisions qui sont importantes pour leur travail, contre 40% pour la moyenne des 27 pays de l'UE. 63% qui estiment pouvoir travailler de manière autonome, c'est encore un pourcentage plus faible que les autres. 59%, ça c'est très important, le chiffre qui nous montre que nous ne sommes pas sortis du taylorisme, hein, 59% qui déclarent travailler à des rythmes très élevés et 62% dans des délais très serrés pendant au moins un quart du temps. 31% qui estiment que leur qualification leur permettrait d'effectuer un travail plus exigeant. 21% finalement qui se déclarent très satisfaits de leurs conditions de travail. Et vous voyez que la moyenne européenne est de 25%, qu'en Allemagne on est à 29%, en Grande-Bretagne à 39% et même en Espagne à 23%. Et qu'enfin, 30% déclarent que ce qu'ils font n'est pas reconnu par les autres. Voilà une espèce de grand tableau trop chiffré, hein, mais qui attire notre attention sur le fait que les immenses attentes des Français se heurtent à des conditions de travail qui restent relativement décevantes. Je passe maintenant à mon autre catégorie d'explications, hein, que j'ai appelée des explications positives, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup le travail. Le problème n'est pas tellement que le travail soit devenu peu supportable pour certains, mais simplement on a d'autres choses importantes à faire et on aimerait bien que tout ça soit mieux articulé. Donc là, c'est une diapositive qui vous montre le nombre de personnes qui s'inquiètent de problèmes professionnels en dehors du travail, c'est-à-dire qui emmènent leurs soucis, leur charge mentale, en quelque sorte, chez elles, et qui, du coup, ne peuvent pas consacrer, par exemple, à leur famille, le temps nécessaire. Alors, j'ai illustré cette question de la famille, parce qu'elle me semble très, très importante, hein. Pourcentage de personnes qui aimeraient consacrer plus de temps à leur famille. Vous voyez que la France est en première position. Pourquoi est-ce que jamais cette question de la famille? Eh bien parce que il me semble que si la France est très leader sur cette question, c'est parce qu'elle présente une autre spécificité, c'est le très grand nombre de femmes avec enfants dans la population active. Et je crois qu'à travers ces revendications d'avoir plus de temps pour la famille ou la plainte que l'on entend sur la mauvaise articulation entre travail et hors travail, on entend la plainte des femmes. Alors pourquoi des femmes ? Parce que ce sont les femmes qui prennent en charge aujourd'hui la plus grande partie des activités domestiques et familiales, et donc que c'est elles qui considèrent que les temps sont mal articulés. Je passe maintenant, et j'en ai quasiment terminé avec les diapositives, après quoi je n'aurai plus qu'une petite partie à vous proposer, hein. Je voudrais là attirer votre attention. J'ai parlé des jeunes. J'ai oublié, en vous parlant des jeunes, de vous dire que parmi ces jeunes, les jeunes femmes précisément, étaient particulièrement attachées aux dimensions expressives et relationnelles du travail. C'est-à-dire que les jeunes femmes étaient particulièrement... avaient des attentes particulièrement fortes à l'égard du travail. Là, ce que je veux vous montrer, c'est à l'aide d'une enquête de l'INSEE qui avait été passée en 2003, hein, dans laquelle on demandait aux personnes qu'est-ce qui était le plus important pour elles, qu'est-ce qui était central pour leur identité. Et l'INSEE avait sorti un papier en disant que c'était la famille qui était centrale dans l'identité. Et vous voyez, en effet, vous voyez que toutes les catégories socio-professionnelles répondent à peu près de la même manière sur la famille. Entre 86 et 92% des CSP disent que la famille, c'est constitutif de leur identité. En revanche, sur le métier ou le travail, eh bien, les choses sont beaucoup plus contrastées, je dirais même polarisées, puisque vous voyez que d'un côté, on a les agriculteurs, les indépendants et les cadres et professions intellectuelles supérieures qui considèrent que le travail est vraiment central dans leur identité, pendant que les ouvriers qualifiés et non qualifiés présentent des taux, et les employés, pardonnez-moi, non qualifiés, présentent des taux beaucoup plus faibles. Alors pourquoi vous dis-je cela ? C'est parce qu'il me semble que les choses se sont d'une certaine manière aggravées, et j'en veux pour preuve une enquête, alors absolument pas représentative, au contraire de celle-ci, une enquête absolument pas représentative qui a été posée sur son site par Radio France, sur le sens du travail, et à laquelle un grand nombre d'auditeurs de Radio France avaient répondu. Or, vous savez que les auditeurs de Radio France sont non seulement plus âgés que les autres, mais beaucoup plus diplômés que des autres, dans des proportions qu'on n'imagine pas, et qu'il y a une surreprésentation des catégories socio-professionnelles supérieures, des professions intermédiaires et des cadres. Or, ce que l'on voit, alors évidemment, il y a un énorme biais, puisque les personnes qui venaient raconter quelque chose sur ce site avaient quelque chose à dire, peut-être plus à se plaindre que les autres, mais il n'en reste pas moins que ce que j'ai trouvé inquiétant, c'est que voilà ce que racontaient les personnes sur leur travail. Quand on leur demandait « Comment ressentez-vous aujourd'hui votre travail ?» Si à peu près 30% disaient que c'était bien, vous voyez, c'est bien 25%, et puis c'est formidable 4,8%. Donc 30% des gens disent c'est bien. Donc 30%, je vous rappelle, plutôt d'une population de cadres, alors de cadres assez proches du secteur public, sans être nécessairement fonctionnaires, hein, puisque la moitié de ces personnes avaient connu le chômage. Donc c'est bien 30%, mais regardez le reste. Hein, je suis fatiguée 27%. C'est dur, mais j'y arrive 24%. Et c'est tellement dur que j'ai envie de partir, 13%, c'est-à-dire une, ce que je voulais illustrer par là, c'était le fait que les catégories cadres étaient à leur tour atteintes par ce relatif retrait vis-à-vis du travail, sans doute parce que le travail, pour certains, est devenu très, très difficile. C'est ma dernière diapo. On demandait aux personnes quelle était, à leur avis, la priorité pour améliorer le travail aujourd'hui, et les trois réponses qui avaient le plus de suffrage, qui recueillait le plus de suffrage, était d'arrêter la course à la rentabilité et à la productivité pour permettre, je lis les trois, hein, pour permettre aux gens de travailler mieux et tous, et pour prendre le temps de faire du travail de qualité. Et dans ces réponses, il y avait plusieurs milliers de témoignages très développés qui tous mettaient au centre de leur malaise l'impossibilité de faire un travail de qualité. Et c'est ce qui me permet de passer à ma troisième partie. Alors peut-être il va falloir qu'on remette un peu de lumière. Je ne sais pas si on peut la demander d'ici. Donc la troisième partie de mon exposé, hein, et je vais bien sûr respecter mon temps, hein, elle consiste à me demander s'il est possible de faire droit aux immenses attentes qui pèsent sur le travail. On a vu que les attentes, d'une manière générale en Europe, sont immenses vis-à-vis du travail, qu'on attend désormais du travail non plus seulement un revenu, mais bien plus. On attend un épanouissement, on attend de faire une œuvre, on attend de dire aux autres qui nous sommes réellement. Et c'est particulièrement vrai en France, et c'est particulièrement porté par les jeunes, et aussi notamment par les jeunes femmes. Pourquoi par les jeunes et par les jeunes femmes ? Parce que, évidemment, tout ça est lié au niveau de diplôme et qu'il y a un lien entre le niveau d'instruction et l'ampleur des attentes, ou du moins le caractère expressif des attentes posées sur le travail. Donc, l'objet de ma troisième partie, c'est d'essayer de réfléchir avec vous sur la question de savoir s'il est possible de faire droit aux immenses attentes dont le travail est l'objet, c'est-à-dire de savoir si cette situation d'intense décalage entre les attentes qui se portent sur le travail et la réalité des conditions de travail peut être corrigée ou améliorée, ou mieux, s'il est possible de prendre appui sur ces attentes, notamment portées par les jeunes et les femmes, donc des attentes, je résume, d'un travail plein de sens, d'un travail utile à la société, d'un travail intéressant, bien intégré dans le reste de la vie, et qui permettent pleinement l'exercice de leurs autres responsabilités familiales et sociales par les hommes et les femmes. Est-ce qu'il est possible de prendre appui sur ces attentes pour réinventer le travail ? Quelles seraient les conditions d'un tel renouvellement ? Et est-ce que les entreprises seraient prêtes à aller jusqu'au bout d'un processus qu'elles ont tout de même largement accompagné, voire qu'elles ont suscité, hein, puisque ce sont bien elles qui, au début des années 90, ont proposé le développement de nouvelles organisations du travail, susceptibles de laisser plus de place à l'autonomie, à l'engagement, à l'implication des salariés, et qui ont proposé de sortir d'un taylorisme à juste titre jugé archaïque. Mais tout montre qu'au moins en France, on n'a pas été jusqu'au bout du processus et que ce processus a plutôt abouti à des situations qu'on appelle d'autonomie contrôlée, où les salariés à la fois sont incités à développer leur initiative, mais où l'inflation des prescriptions avant, et puis des logiques gestionnaires avec des indicateurs, avec des choses qui clignotent, avec des contrôles du temps, on me semble-t-il, complètement contrecarré la possibilité de faire un travail de qualité et ont enfermé les salariés dans des injonctions contradictoires. Faites de la qualité, mais en même temps, nous allons mesurer les choses de telle sorte que vous ne pourrez pas faire de la qualité. Qu'impliquerait donc le fait de faire droit aux attentes des salariés ? À mon avis, trois choses, et là, évidemment, je pense que nous aurons un peu de discussion. Trois choses. Remettre la qualité du travail au centre du processus de production. Là, je pense que vous serez d'accord avec moi. Développer l'implication et la participation des salariés. Peut-être que vous ne suivrez encore. Et redéfinir la norme de travail à temps complet. Là, j'espère avoir encore quelques-uns d'entre vous avec moi, mais je n'en suis pas certaine. Cette enquête de la Fondation de Dublin que je vous ai présentée, elle a mis en évidence que les salariés français semblent disposer de moins d'autonomie, de responsabilité, de marge de manœuvre, de possibilité d'initiative que les salariés d'autres pays, notamment des pays nordiques. C'est-à-dire que tout se passe comme si nos hiérarchies étaient plus pesantes, nos prescriptions plus formalisées. Le contrôle en cours de travail est a posteriori par des indicateurs encore plus développés et les conflits éthiques de valeurs encore plus fréquents. Je pense, dans une recherche récente, un programme de travail que l'on fait sur la reconnaissance. J'ai été dans un centre d'appel où on dit aux personnes qu'elles sont vraiment la vitrine de l'entreprise, donc qu'elles doivent prendre tout le soin possible pour répondre aux personnes qui appellent, pour demander des choses sur leur dossier. Mais en même temps qu'on leur dit cela, elles ont un bandeau qui passe, qui leur montre le minutage de l'appel, qui leur demande qu'au bout de 3 minutes, ce soit fini. Et en plus, elles ont des indicateurs sur lesquels elles sont jugées. Et de surcroît, elles n'ont pas la possibilité d'apporter réellement la réponse aux clients parce que les services de gestion et les services de réponse au téléphone ont été radicalement séparés. Donc, on trouve dans ce centre d'appel des personnes qui sont complètement soumises à des injonctions contradictoires parce qu'elles souhaitent elles se sont prises au jeu, elles veulent faire ce travail de qualité, mais elles en sont d'une certaine manière empêchées. Donc,
Donc je crois que nous avons vraiment à réfléchir sur nos organisations du travail et sur le type d'organisation qui laisserait plus d'autonomie et de responsabilité aux salariés et qui permettrait, qui serait plus propice à un travail de qualité, dans le double sens du terme, hein, qualité du travail et qualité du produit. Et ici, les mots-clés me semblent être autonomie, marge de manœuvre, variété et intérêt du travail, possibilité de rendre visible la contribution du salarié pour pouvoir la distinguer et la reconnaître au plein sens du terme, et également certainement nécessité d'un management de proximité attentif et plus qu'aujourd'hui issu du rang de ceux qui sont devenus les subordonnés. Deuxième chose, donc remettre la qualité du travail au centre des préoccupations. Cette enquête de la Fondation de Dublin, elle a aussi mis en évidence, je vous l'ai montré dans l'avalanche de chiffres que je vous ai présenté tout à l'heure, elle a mis aussi en évidence une moindre consultation et une moindre implication des salariés français en cas de changement, de réorganisation, de restructuration, mais aussi au quotidien dans le travail. Et cette Fondation de Dublin, elle classe les organisation du travail selon le degré d'implication des salariés. Elle appelle ça les Involvement Working Organization. Et vous voyez qu'il faut traduire involvement par implication, participation, engagement. Et qu'est-ce que nous dit la Fondation de Dublin, hein ? C'est que la France est moins bien placée en matière d'organisation permettant la participation des salariés, l'implication des salariés. Elle est moins bien placée, non seulement, c'est un classique, que les pays nordiques, mais aussi que les pays anglo-saxons et même certains pays de l'Est. Or, les salariés, on a montré très récemment, à partir des résultats de cette enquête 2010 de la Fondation de Dublin, on a pu montrer que les salariés les plus impliqués dans la prise de décision, ce sont aussi ceux qui sont le moins confrontés à des risques physiques dans leur environnement de travail, ceux qui connaissent les plus hauts niveaux de bien-être, et ceux qui sont moins absents en raison de problèmes de santé, et enfin ceux qui réalisent un travail de plus grande qualité. Et je crois qu'aujourd'hui, un grand nombre d'observateurs s'accordent à reconnaître que les espaces de parole, de débat, de prise en compte des avis des salariés manquent cruellement, donc il faut réussir à ouvrir, à réouvrir de tels espaces et à remettre de la discussion et de la délibération sur de nombreux aspects du travail au quotidien. C'est là-dessus que devait aboutir l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. Et il me semble maintenant qu'il faut aller peut-être encore beaucoup plus loin et qu'une telle démarche appelle sans doute une reconceptualisation de l'entreprise, c'est-à-dire la reconnaissance que l'entreprise n'est pas seulement un instrument au service des seuls actionnaires, mais un projet porté par un ensemble de parties prenantes. Et je renvoie sur ce point un texte récent d'Isabelle Ferreras, publié au PUF, hein, qui s'appelle « Gouverner le capitalisme », qui propose de mettre en œuvre un bicaméralisme qui serait tel que la direction des entreprises réassurait par un directoire, nommé à la fois par ce qu'elle appelle la chambre du capital et par la chambre du travail. Enfin et dernier point, faire droit aux attentes des salariés, prendre au sérieux les attentes des salariés. Je crois que ça suppose de remettre au cœur des discussions la question du temps de travail et plus généralement la question de l'articulation des temps et des rythmes sociaux. On l'a vu, les salariés français sont les plus nombreux à se plaindre de la mauvaise articulation entre vie professionnelle et vie privée. Et je l'ai dit, cela n'est pas sans lien avec la forte présence des femmes avec enfants dans la population active. Il est désormais parfaitement établi que si les femmes sont plus diplômées que les hommes et si leurs attentes sont encore plus intenses que celles des hommes, l'arrivée d'un enfant contribue à rendre leurs conditions d'inscription dans l'emploi moins favorable que celle des hommes, puisqu'elles continuent à avoir de moindres taux d'activité et d'emploi, à être beaucoup plus nombreuses dans le temps partiel et à présenter de très hauts taux de sous-emploi. Plus précisément, selon la dernière enquête emploi du temps française, les femmes, c'est malheureusement quelque chose qui revient d'enquête en enquête, hein. Les femmes prennent toujours en charge la plus grande partie du temps familial et domestique, mais surtout, je crois que ce chiffre est important, elles consacrent en moyenne au travail, pour celles qui sont en emploi, 29 heures par semaine seulement pour plus de 37 heures pour les hommes en emploi. Et cette situation très particulière, elle me semble liée aux conditions dans lesquelles les femmes ont rejoint massivement le marché du travail dans les années 70, et plus précisément le salariat. C'est-à-dire que les femmes sont arrivées dans le salariat sans que l'organisation du travail soit révisée, sans que le rôle des hommes soit repensé et sans que les modes d'accueil des jeunes enfants ou plus généralement toutes les activités périscolaires soient développées dans une quantité suffisante, alors même que le modèle du male breadwinner était abandonné et que la fonction de réservoir de temps et de coordination des temps de la famille, jusque-là réalisée par les femmes, était évidemment en déclin. Et donc, je crois que c'est à la lumière de la question majeure de l'égalité entre hommes et femmes que nous devons repenser l'organisation des temps de travail. Je crois donc qu'aujourd'hui, si nous voulons non seulement inverser la courbe du chômage, mais même lutter radicalement contre le chômage et tout mettre en œuvre pour assurer effectivement l'égalité entre hommes et femmes, nous devons remettre la question de la réduction de la norme de travail à temps complet au cœur de notre réflexion. Il me semble que si nous voulons passer à des organisations performantes économiquement et socialement, qui permettent aux hommes et aux femmes de faire face également, hommes et femmes, aux responsabilités professionnelles et aux responsabilités familiales, il nous faut sans doute revoir radicalement l'organisation du temps de travail et peut-être réduire la norme de travail à temps complet. Pourquoi pas autour de la semaine de 4 jours? Pourquoi pas autour d'une norme flottante autour de 33 heures? Et en tout cas, autour d'une organisation prenant en considération les autres vies du salarié et adaptée au cycle de vie. Nous avons besoin pour cela de tirer un bilan serein de la réduction du temps de travail en France, dont je rappelle quand même qu'elle a été conçue à un moment où le taux de chômage était exactement au niveau où il est aujourd'hui, qu'elle s'est accompagnée de fortes créations d'emplois, qu'elle s'est accompagnée, je crois que c'est très important de le dire, d'un retour de l'espoir et aussi, et ce n'est pas du tout anodin, on s'en flatte tous les jours, d'un baby-boom. Je ne dis pas que les deux sont liés, mais après tout, pourquoi pas. Par ailleurs, il faut souligner que si l'on compare les durées hebdomadaires effectives de travail, en prenant en compte non seulement les temps complets, comme on le fait souvent, seulement les temps complets, mais aussi les temps partiels, c'est-à-dire qu'on additionne les temps complets et les temps partiels, alors la durée effective de travail française est supérieure à la durée allemande ou néerlandaise, mais aussi américaine. Il y a donc actuellement en œuvre une forme de partage du travail, mais je dirais une forme de partage peut-être sauvage, qui s'opère au détriment des chômeurs et des femmes, et que nous devrions lui substituer une forme de partage du travail civilisée. Alors je voudrais conclure en m'interrogeant sur les conditions générales d'un tel basculement. D'abord, cette remise au centre des discussions et des processus de production de la qualité du travail et de l'implication des salariés, elle me semble renouer non seulement avec la tentative de l'Union européenne en 2001 de donner une place centrale à la qualité de l'emploi, mais aussi avec l'objectif poursuivi par le BIT de promouvoir le travail décent dans le monde. Il est totalement congruent aussi avec le nouveau modèle de développement que nous devons mettre en place pour faire face à la crise écologique qui nous menace. Je pense qu'il exige de rompre avec la logique du marché total que dénonçait Alain Supiot dans son ouvrage « L'esprit de Philadelphie » et de renouer avec les principes de cette déclaration de Philadelphie qui mettait au centre de ses priorités la justice sociale et le refus du travail marchandise. Il suppose également de redonner au BIT des pouvoirs au moins aussi importants que ceux dont dispose l'OMC, comme Mireille Delmas-Marty le propose depuis longtemps, mais aussi de parvenir à faire de l'Europe un leader en matière de normes sociales et environnementales, puisque seules ces dernières pourraient permettre le développement d'une production destinée à satisfaire les besoins essentiels de nos concitoyens et de remplacer l'obsession actuelle pour la maximisation de la rentabilité et de la productivité par celle du prendre soin, c'est-à-dire produire sous contrainte du respect et du prendre soin des contraintes sociales et environnementales, prendre soin de notre patrimoine naturel, du travail humain et de la cohésion sociale. Un tel projet, ça sera mes derniers mots, je vous prie de me pardonner si j'étais un tout petit peu plus long que prévu, un tel projet suppose certainement de nombreuses ruptures, sans doute avec la conception et le fonctionnement actuel de l'Europe, avec la financiarisation du monde, avec une interprétation réduite de la compétitivité, et puis sans doute avec notre indicateur majeur de performance, le taux de croissance du PIB, qui, comme le reconnaissait Joseph Stiglitz, nous trompe, nous mène dans le mur, et qui devrait donc sans doute d'urgence être complété par de nouveaux indicateurs de richesse plus susceptibles de braquer le projecteur sur ce qui compte vraiment pour l'inscription de notre société dans la durée. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Très intéressante présentation, communication. Vous nous avez montré d'abord des résultats d'enquête qui sont assez passionnants. Qui sont parfois, comme vous l'avez mentionné, contradictoires, qui sont parfois un peu provocants. Et puis à la fin, vous nous avez esquissé une des perspectives de nature assez différente, oubliant peut-être que, comme vous l'avez dit au début, le travail est à la fois un facteur de production économique et un facteur d'épanouissement humain. Et qu'on ne peut pas non plus oublier le premier quand on travaille sur le second. Alors, il y a une question, avant de donner la parole à Yvon Gattaz, il y a une question que je voulais vous poser un petit peu, parce que, dans le fond, on voit les originalités de la position des Français. Et les difficultés ou les pesanteurs dans la gestion des entreprises, qui ne sont absolument pas contestables, sont les mêmes dans les différents pays. Des entreprises internationales comme celles que j'ai eu l'occasion de connaître ont des modes de management dans les différents pays qui ne sont pas très différents. Et pourtant, nous avons effectivement cette réaction assez différente des différentes cultures. Et quand vous avez terminé en insistant sur il faut redonner de la qualité du travail, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Philippe Diribarne et à son livre sur la logique de l'honneur. Parce que ce qu'il nous disait en gros, c'était il y a quelques années, c'est que les Français voulaient juger de la qualité et des modalités de leur travail par eux-mêmes. Et non pas qu'on leur dise comment il fallait faire leur travail. Mais que malheureusement, quand on voulait optimiser sur le plan économique, dans un certain nombre de cas, on était amené à avoir des disciplines plus générales auxquelles ils réagissaient plus mal que d'autres. Alors, comment, dans ce que vous avez dit, dans le fond, qu'est-ce qui vous pensez est spécifiquement français et qu'est-ce qui s'applique à l'ensemble des pays examinés ?
Oui, vous pouvez répondre au fur et à mesure.
D'accord. Alors,
On va peut-être, parce qu'on a pris un peu de retard, on va peut-être prendre une série de questions et puis vous répondrez après.
D'accord.
Yvon Gattaz.
Oui, je voudrais d'abord féliciter Mme Béda, dont nous connaissons tous la compétence extrême dans ce domaine du travail, et ses livres font autorité sur l'origine historique du travail, depuis le tripalium, qui était un instrument de torture, mais qui n'est plus aujourd'hui un instrument de torture. Elle ne s'étonnera pas que si nous avons des chiffres voisins, nous n'ayons pas tout à fait les mêmes conclusions, nous, chefs d'entreprise, elle, observateur avisé des salariés. En fait, ce problème est un problème sur lequel nous nous penchons sans arrêt. L'erreur, c'est de croire, comme l'a dit le président, que les chefs d'entreprise ne s'intéressent pas à ce problème. C'est leur souci majeur. Je suis un très, très ancien chef d'entreprise, puisque je suis chef d'entreprise depuis 61 ans, je crois même que je bats le record français, et il y a 61 ans, je me pose ce problème. Comment faire pour que tous salariés soient plus heureux ? D'ailleurs, pas uniquement de générosité, mais un peu par intérêt, car nous savons tous que le rendement d'un salarié est tout à fait fonction de sa motivation psychologique. On a tout intérêt, le mot intérêt ne me gêne pas du tout, au contraire, porter intérêt à quelque chose ou à quelqu'un, c'est tout à fait noble. On a donc intérêt, je le répète, à ce que nos salariés soient motivés. Et le résultat finalement d'une entreprise, ça n'est jamais que la somme intégrale. de l'adhésion psychologique des salariés au projet de la direction. Ça n'est rien d'autre. Alors voilà, comment établir cette union sacrée ? Car on continue à dire, on continue à afficher que nos intérêts sont divergents. C'est vrai qu'ils peuvent paraître divergents dans l'instantanéité. Ils sont totalement convergents à terme. Totalement convergents. L'intérêt des salariés est identique à celui des cadres et des chefs d'entreprise. Il faut que ça marche. Et tout le monde sait bien que c'est les entreprises les plus performantes qui payent les meilleurs salaires et où le climat est le meilleur. J'ai vu ça dans toutes les entreprises que j'ai connues et même où je suis passé, puisque j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans une très grande entreprise qui était conviviale et de créer une entreprise à partir de zéro que nous avons essayé de rendre conviviale en permanence. Je me permets de vous rappeler que le président de la République actuel m'a demandé un jour si nos entreprises étaient conviviales, puisque c'est le mot, je crois, qui convient le mieux. Je n'ose pas parler comme Octave Gélinié d'harmonie sociale, qui me paraît un peu présomptueuse, mais au moins conviviale. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, venez donc visiter l'usine que vous voudrez. On a choisi ensemble une usine qui est près de Tours. Il est venu le 17 décembre dernier avec deux ministres, M. Montebourg et Mme Touraine, et ils se sont adressés en toute liberté aux salariés, aux cadres, au personnel, qu'ils ont réunis d'ailleurs à la fin de la réunion. Et à la fin, il m'a dit, ben oui, j'ai trouvé que l'atmosphère était tout à fait conviviale. Quel est le secret ? Ben, le secret, il est d'une simplicité biblique. On essaye de rendre leur travail intéressant. Il faut qu'ils soient motivés, qu'ils aient le sens de responsabilité et d'autonomie. Et c'est pas, nous appelons ça de façon un peu prétentieuse le lean manufacturing, avec des, vous connaissez bien, avec des équipes de 12 à 15 personnes très motivées qui organisent eux-mêmes leur travail. Rassurez-vous, c'est pas ce qu'on appelait autrefois l'autogestion des années 70, qui était la catastrophe que vous savez. Enfin, c'est une forme dérivée de ce qu'on aurait pu appeler l'autogestion. Alors, aujourd'hui, le travail, c'est l'emploi. L'emploi, c'est le souci numéro un de tous les peuples de la Terre, à cause du chômage. Or, la multiplication des emplois passera d'abord par la multiplication des employeurs. On devrait parler un peu des employeurs. C'est les employeurs qui créent les emplois. Or, les emplois de fonctionnaires, bien entendu. Alors, est-ce que le travail est aliénant ou ne l'est pas ? J'ai dit stressant, aliénant, etc. Il l'est de moins en moins. Moi, je peux vous dire qu'en 1952, il était stressant et aliénant. On ne discutait pas. 60 ans après, il est devenu, à mon avis, plutôt libérateur. Quand on interroge les jeunes, y compris ceux de la génération Y, dont vous avez parlé tout à l'heure, que je connais bien, que je suis interrogé. Je m'intéresse beaucoup aux jeunes et je les vois toutes les semaines, presque tous les jours, même tous les jours. Ils sont extrêmement motivés, la génération Y. On est allé psychologiquement leur chercher des poux dans la tête. Ils sont de la génération du numérique. Ils sont enthousiastes pour le numérique. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que cette génération Y, quand ils étaient au lycée, ils disaient, le travail, on n'en veut pas. On ne veut pas travailler, on ne veut rien faire. Ah, oh, si on pouvait descendre au-dessous de 35 heures, de 25 heures, de 20 heures, ça serait parfait. Et quand ils créent leur petite affaire dans le numérique, ils travaillent 40 heures par semaine, tous. Je n'ai jamais vu des jeunes autant travailler qu'en ce moment, et spontanément. Les jeunes actuels sont extraordinairement travailleurs, extraordinairement. Et pour eux, le travail n'est pas aliénant, il est libérateur. Vous avez parlé des femmes. Mais les femmes, madame, ont plus été libérées, à mon avis, par le travail que par la cigarette, comme on l'a dit. C'est le travail qui les a libérées. Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont durées. En fait, c'est ou le travail choisi ou le travail subi. Tout le problème est là. Et il faut qu'ils aient l'impression que le travail a vraiment été choisi. Alors, ce problème de l'emploi, c'est le problème de la France, c'est le problème majeur. Eh bien, on le créera que s'il y a cette fameuse croissance, je sais que vous n'êtes pas pour la croissance, moi je suis pour la croissance, pour des raisons bien claires. Je sais que la décroissance est moralement sympathique, mais enfin les nostalgiques des diligences et de l'odeur du crottin de cheval, ça ne suffit pas aujourd'hui. aujourd'hui, il nous faut de la croissance. Oh, j'ai presque fini. J'en suis à la moitié. C'est des notes que je viens de prendre. Non, vous me pardonnerez, mais je crois que c'est intéressant. Je pense que ça intéresse Mme Méda elle-même, je pense, d'avoir un peu une position opposée.
Non. Et puis, il faut que chaque académicien puisse s'épanouir dans son travail.
Allez, les quatre raisons de la croissance. Pourquoi il faut de la croissance, madame ? Eh bien, pourquoi je veux de la croissance ? Pourquoi nous voulons de la croissance ? Pourquoi cette croissance est indispensable ? Au moins pour quatre obligations. Dans une entreprise, la croissance est d'abord biologique. Une entreprise qui ne croit pas, c'est comme une plante, un être vivant, elle décroît. Si elle décroît, elle va à sa disparition. Biologiquement, elle doit grandir. Deuxièmement, c'est une obligation psychologique. Vous n'embaucherez jamais un cadre ou un collaborateur de talent en lui donnant des perspectives de récession. Il faut lui dire on a une forte croissance. Troisièmement, la croissance est le seul remède qui efface les erreurs. Toutes nos erreurs, chef d'entreprise, c'est quoi ? C'est sur effectif, sur investissement, sur endettement, sur stock, qui deviennent, avec la croissance, des anticipations géniales. Et quatrièmement, la croissance crée obligatoirement l'emploi. Il n'y a que la croissance qui crée l'emploi, puisqu'on nous dit, on nous accuse à nous d'être psychologiquement un peu inquiet de l'engager du personnel. Ce qui est vrai, le patron français a une peur panique de l'effectif.
Madame Méda n'était pas sur la croissance.
J'arrête. Alors j'arrête, c'est dommage, parce que la fin était très intéressante.
Merci beaucoup. Jean-Claude Casanova.
Merci, Monsieur le Président.
Ah, ça marche pas.
Ça ne marche pas.
Oui, ça marche.
Merci. J'ai été très intéressé par l'exposé de Madame Méda. Je voudrais lui soumettre une perspective qui est à la fois peut-être une critique ou un complément. En classe de philosophie, on nous apprenait que quand un concept gagne en extension, il perd en pénétration. Et je ne suis pas sûr de l'utilisation du mot travail. D'abord, pour une première caractéristique, en français, travail est quelque chose de pénible. Je regardais, en vous écoutant tout à l'heure, le littré, toutes les acceptions du mot travail en français sont liées à la pénibilité. C'est tout à fait différent en italien. Lavoro n'est pas du tout lié à la pénibilité.
Sauf au pluriel.
À lavori ?
Non, travaux.
Travaux, en français, travaux. Bon, enfin, donc malgré tout, ça m'inquiète pour les sondages, si vous voulez. Il est vraisemblable que un Italien ou un Anglais ne répondront pas de la même façon à la connotation du terme. Mais là, c'est un problème de généralité des sondages, mais je voudrais revenir sur le concept travail lui-même, parce que ce qui me paraît caractéristique quand on le regarde historiquement, comme vous l'avez fait historiquement et philosophiquement, c'est que les thèmes importants, ce n'est pas travail, c'est division du travail ou hétérogénéité du travail. Et d'une certaine façon, le concept de division du travail ou d'hétérogénéité du travail ont plus d'importance dans la problématique sociale que le travail lui-même. Alors, prenons l'hétérogénéité. Là, je ne sais pas de quand date, là, je crois que ça vient un peu avant le Moyen-Âge ou du Moyen-Âge, la distinction des arts libéraux et des arts mécaniques. Art, d'ailleurs, étant en français un mot plus proche de labeur ou de lavor que travail. Les arts mécaniques, ce sont les arts qui peuvent être faits par des gens qui ne sont pas libres, c'est-à-dire où l'esprit n'est pas nécessaire. L'esprit, pour les classiques, la formation de l'esprit venant des loisirs. Les arts libéraux, en revanche, c'est les arts qui peuvent être accomplis, les activités qui peuvent être accomplies par des hommes qui sont libres. Donc ce qui est essentiel, c'est incontestablement la hiérarchie, l'inégalité des arts ou l'inégalité du travail. Et quand vous arrivez à vos auteurs canoniques, le concept central pour Smith, ce n'est pas le travail, c'est la division du travail. Et Hegel, grand lecteur de Smith, on a malheureusement perdu les manuscrits de Hegel sur Smith, Hegel, lui aussi, c'est la division du travail, et pour Marx aussi, évidemment. Mais vous manquez le génie qui précède les trois, qui est Rousseau. Parce que Rousseau, lui, a vu que c'était la division du travail était quelque chose d'extrêmement critiquable. Et quand on voit bien quelle est la critique de la division du travail, elle revient au problème de l'hétérogénéité. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à la division du travail ? Elle crée entre les hommes la dépendance. Donc on est moins libre quand on dépend des autres. Bon, c'est évident. Elle crée entre les hommes la spécialisation. Quand on a une spécialité, on n'accomplit pas toutes ses virtualités. Donc d'une certaine façon, la spécialisation amoindrit les virtualités humaines. Elle est une régression. Et Marx, que vous avez cité le passage le plus favorable au travail dans les manuscrits de 1844. Mais c'est là qu'il y a le grand texte sur la fin du travail. La fin de l'histoire, c'est la fin du travail. Et on est pêcheur, poète, on va sur la plage, etc. Il est évident que Marx pense à la fin de la libération, c'est la fin du travail, d'une certaine façon. Il n'y a pas d'autre idée comme horizon historique. Alors, la troisième critique à l'égard de la division du travail, c'est l'infériorité de certains travaux. Et là, on retrouve la classification des arts mécaniques et des arts libéraux. Le drame, on le voit bien, le drame de la division du travail, c'est que par la spécialisation et l'échange, certains sont condamnés uniquement à des travaux qui n'appellent pas l'esprit et qui sont considérés comme dégradants. Il est évident que celui qui est balayeur pendant 40 ans de sa vie aura un travail moins accompli que celui qui est ingénieur ou celui qui est artisan ou celui qui est contremaître, etc. Or, c'est là que... C'est pour ça que je ne suis pas du tout convaincu par les enquêtes générales où on interroge tout le monde sur le travail. Il est bien évident qu'il nous faudrait des enquêtes et il est vraisemblable que les gens qui font du travail non qualifié ne vont pas répondre de la même façon que les contremaîtres ou les ingénieurs et qu'il y aura des réponses fondamentalement différentes et que malgré tout, il y a dans la société une grande distinction entre ceux qui vivent pour travailler et ceux qui travaillent pour vivre, qui fait, ici nous sommes entre gens qui travaillent, qui vivent pour travailler, et il est bien évident que nous n'aimerions pas être à la place de gens qui travaillent pour vivre. Et de cette façon, si vous voulez, là on trouve les problèmes douloureux du travail, et je trouve que c'est un peu, dans la sociologie moderne et dans la politique moderne, qui pour des raisons politiques évidentes et électorales unifie le terme « travail », on perd de vue la vraie réalité des problèmes spécifiques que posent certains types de travail, le travail non animé, le travail sans débouché, le travail sans formation, etc. Et je trouve, je ne sais pas si c'est votre impression, c'est la question que je voulais vous poser, je me demande si l'analyse, et à la suite de l'analyse, la politique, ne gagnerait pas à davantage d'hétérogénéité, davantage de spécificité, et dans les enquêtes et dans les remèdes qui seraient proposés.
Merci. Georges-Henri Soutou. Le micro arrive.
Oui, madame, j'étais moi aussi très frappé par votre étude. Je me contenterai de faire une remarque que votre exposé lui-même m'a inspiré, peut-être à tort, mais enfin, c'est qu'il y a deux choses en fait différentes dès qu'on analyse. C'est d'une part le travail, avec tout ce que nous avons expliqué, et également l'emploi. D'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas l'emploi qui est porteur de statut, plus que le travail en lui-même, sauf dans les sociétés plus traditionnelles? Voilà, sur réflexion un peu philosophique, je me permettrai de vous poser trois questions précises à propos des corrélations statistiques que l'on peut faire ou ne pas faire. Tout dépend évidemment des agrégats dont vous disposez. Est-il possible, puisque vous avez marqué de façon très intéressante le cas particulier, bien souvent, de la France par rapport à d'autres pays, y compris pays européens proches, est-il possible d'établir une corrélation avec le pourcentage, également très différent d'un pays à l'autre, entre l'emploi public et l'emploi privé, pour parler très, très brutalement? Y a-t-il possibilité ou pas de trouver une corrélation? Deuxième question, du point de vue du stress, évidemment, une question qui nous intéresse au premier chef. Est-il possible de faire une différence dans le cas français entre la région parisienne et d'autres régions, y compris des régions actives? Bien entendu, je ne parle pas de régions en déclin, même s'il me semble que le temps de parcours pour se rendre sur son lieu de travail augmente, même en province, de plus en plus, pas seulement en région parisienne. Et troisième question, est-il possible, à partir d'une analyse historique de ces statistiques, si on a les données nécessaires, de voir, toujours du point de vue du stress, l'impact éventuel des 35 heures, dans la mesure où, certainement pas toutes les entreprises, mais certaines face à la concurrence internationale, face à des problèmes particuliers d'organisation, car il y a 36 000 types d'organisation du travail en fonction des entreprises, est-ce que certaines entreprises n'ont pas été amenées à durcir, pour parler brutalement, les conditions de travail avec la nécessité d'intégrer les 35 heures? Voilà, madame, avec mes remerciements.
Merci. André Vacheron.
Merci, monsieur le président. Oui, madame, dans votre intéressant exposé, vous avez souligné, je suis ici, vous avez souligné le rôle délétère du stress. Un élément tout à fait délétère que nous connaissons bien, nous médecins, j'en suis un, avec des poussées hypertensives, des accidents coronariens, de la dépression, des suicides. France Télécom en a donné l'exemple. Et vous savez qu'au contraire, des industriels comme les Allemands, avec leurs usines automobiles, donnent à leurs employés, à leurs ouvriers, un climat favorable où les gens sont heureux de travailler dans l'usine Audi, par exemple. Ce que je voulais vous demander, c'était si, dans les pays non européens, comme le Japon ou les États-Unis, on retrouvait ce stress avec un rôle important, un rôle délétère aussi important qu'en France, puisque nous sommes un petit peu les champions européens du stress par rapport aux pays scandinaves notamment. Merci.
Michel Pémon.
Merci, merci beaucoup, madame, de cet exposé. Je voulais vous poser plusieurs questions que je voulais poser l'ont été déjà, notamment par Jean-Claude Casanova. Je voulais vous poser des questions un peu méthodologiques. Là, le dernier sondage ou la dernière enquête dont vous avez produit les résultats, quelle est à votre avis la priorité pour améliorer le travail aujourd'hui? Je voulais vous demander, qui a posé la question sous cette forme et choisi les types de réponses? Deux, quel est l'échantillon sur lequel la question a porté? Trois, pensez-vous que la traduction dans chacune des langues du terme « améliorer le travail » peut donner une homogénéité, quelconque réponse? Et donc, j'ai dit, je crois, quelle était l'importance de l'échantillon. Est-ce qu'on avait une répartition de cet échantillon, comme cela vient d'être suggéré par M. Soutou, entre la population d'agents publics et celle d'autres salariés, à supposer que ce soit les salariés qui soient interrogés ou toute la population, je ne sais pas. Je rappelle qu'en France, nous avons un quart de la population active dans le secteur public, ce qui nous distingue de, je crois, une bonne partie du reste du monde. Ma deuxième série de questions était relative à la production. Je pense, comme Pierre Gattaz, qu'il est préférable, si nous souhaitons que nos enfants vivent une meilleure vie que nous nous attachions à maintenir des niveaux de production relativement élevés, voire plus élevés. Je voulais vous demander ce que vous pensiez du point de vue du travail, de la question du chômage et de la corrélation qui pourrait exister entre les spécificités françaises vis-à-vis du travail et notre taux de chômage. Je rappelle que nous avons en France un taux de chômage structurel qui s'établit, d'après les économistes, à 8% de notre population active et que la plupart des pays voisins de même niveau de développement ont un chômage structurel entre 4 et 7%. Est-ce que la conception que nous développons l'activité ne peut pas avoir de relation avec cette particularité douloureuse pour ceux qui sont affectés ? Ma dernière question était relative à votre conclusion dans laquelle vous avez évoqué la réduction du temps de travail. Vous avez dit qu'elle avait ramené l'espoir, c'est votre jugement, qu'elle avait créé des emplois, c'est inexact. Les statistiques qui ont été produites par les services officiels ont permis de constater que plusieurs centaines de milliers d'emplois avait été détruit par l'abaissement de la durée du travail de 39 à 35 heures pour le travail hebdomadaire. Enfin, qu'elle avait sans doute déclenché un baby-boom. Je suppose que c'est un espoir identique à celui que vous aviez sur les créations d'emplois.
Merci. J'avais dit à Madame Méda en préparant cette réunion que je souhaitais qu'on évite de revenir sur le débat des 35 heures, mais je vois que ma recommandation, la communicante ne l'ayant pas suivi, ne veut pas effectivement être entrée. Christian Poncelet.
Oui, Chère madame, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'excellent exposé que vous venez de présenter. Je partage l'essentiel de vos propositions. Mais permettez-moi de vous dire que l'expérience m'a appris que le pire dérèglement de l'esprit, c'est de concevoir les choses au moins qu'elles soient. C'est ce qu'il faudrait. Mais malheureusement, comment l'atteindre? Point d'interrogation. En ce qui concerne la participation à laquelle vous avez fait référence, une initiative a été prise, mais elle n'a pas été prolongée. Il y a 40 ans, vous avez parlé d'associer le travailleur, bien sûr, à la marche de son entreprise. Il a fallu 40 ans, seulement il y a seulement 9 mois, qu'un accord patron-syndicat a autorisé la présence du personnel dans les communautés d'entreprise et à des conditions que moi-même je n'aurais pas acceptées, mais enfin, puisque là ils sont désignés par les syndicats, alors que moi je souhaitais qu'ils soient élus par le personnel. Ça, c'est tout notre affaire. Donc par conséquent, il y a aussi les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail. Il existe une agence pour l'amélioration des conditions de travail. C'est une agence paritaire, État, représentant du patronat et représentant des salariés. Cette agence a été créée il y a très longtemps. Depuis sa création, peu de modifications, peu de décisions ont été prises par cette agence. Pourquoi? Et puis, par ailleurs, vous avez parlé, bien sûr, du salaire des femmes. Le salaire des femmes, pour ma part, j'aurais souhaité qu'on puisse créer un salaire familial, parce que quand une famille a trois ou quatre enfants, c'est un véritable travail pour la femme au foyer. Elle aurait pu, avec un salaire familial, consacrer son temps, non pas une activité qu'elle cherche actuellement pour compléter le salaire du mari, mais en se consacrant à l'éducation de ses enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, la société aurait moins d'insécurité, aurait moins de délinquance. Ça n'a pas été accepté. Il faut encore attendre une quarantaine d'années. Et puis, vous avez parlé aussi du salaire minimum. Oui, mais nous sommes dans un ensemble européen. Tout récemment encore, on a pu constater que le SMIC existait en France, mais il n'existait pas en Allemagne. Et les immigrés turcs, par exemple, qui arrivent en Allemagne, croyez-moi, ils sont loin d'être payés au SMIC. C'est pour ça qu'ils quittent l'Allemagne pour venir en France, parce qu'il y a obligation par la France, et c'est bien, de les créer au SMIC. Il y aura d'abord une harmonisation à avoir au niveau de l'Europe. Aucune, dans ce domaine-là, aucune action a été engagée au niveau européen sur l'harmonisation sociale, comme sur l'harmonisation fiscale. Quand ça a été tenté, à l'époque, il s'agissait pour le président de la République, à l'époque, d'affermir l'Europe, au lieu de l'affermir, on s'est engagé dans une voie qui consistait à l'élargir, ce qui rend maintenant impossible toute harmonisation. Alors c'est pourquoi je suis heureux de vous entendre, mais je crains que l'aboutissement, il nous faille encore attendre quelque temps, n'est-ce pas, avant que ça ne soit réalisé, n'est-ce pas ? Voilà les observations que je tenais à faire à votre excellent exposé.
Merci. Mireille Delmas-Marty.
Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais évoquer, alors non plus l'Europe, mais la mondialisation. Est-ce qu'on peut établir une corrélation entre la mondialisation du commerce, je pense essentiellement à la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1994, et les conditions de la qualité du travail, ou bien alors une corrélation par rapport aux enquêtes d'opinion et aux opinions que les travailleurs se font sur la qualité de leur travail. Et puis, j'aurais une autre question concernant, vous l'avez évoqué, l'Organisation internationale du travail. Est-ce qu'une refondation, un renforcement du rôle de l'OIT pourrait avoir un impact sur les conditions de qualité du travail?
Merci. Et la dernière question sera posée par notre vice-président, Bernard Bonjour.
Merci. Je voudrais insister un peu dans le sens de Jean-Claude Casanova. Je crois qu'effectivement, il faut distinguer le travail en son essence et c'est quelque chose de négatif. Il y a toujours un élément de contrainte. Et les conditions et circonstances du travail, c'est-à-dire le statut du travail ou la place du travail chez celui qui travaille. On a cité Hegel, on a cité Marx. Pour l'un et l'autre, le travail est foncièrement quelque chose de négatif. Par conséquent, améliorer le travail ne peut consister qu'à le réduire, voire à terme à le supprimer. La position de Marx, de ce point de vue-là, quant au statut du travail dans l'État communiste, lorsque c'est l'association des travailleurs, la communauté des travailleurs qui va organiser le travail, la position de Marx ne me paraît pas très claire. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il pense de l'action qui sera celle des travailleurs associés lorsque le capitalisme aura disparu. Alors évidemment, il insère ce qui pourra peut-être s'appeler encore un travail dans un contexte qui fera, dans une certaine mesure, oublier la négativité du travail, ou qui permettra de la tolérer. Le matin, l'homme pourra s'occuper d'un travail, un petit travail, ensuite il ira faire son jardin, l'après-midi il jouera aux cartes, et le soir, bien entendu, il fera de la philosophie. En tout cas, la position de Hegel sur ce point est claire. Le travail ne peut pas et ne doit pas être entièrement supprimé. Il faut l'insérer dans un nouveau contexte dans lequel, par exemple, quand l'homme travaillera, il sera en même temps organisateur de son travail. Et si j'évoque la solution que le général de Gaulle avait proposée, l'association du capital et du travail, pour qu'elle soit vraiment plénière, il faut qu'elle existe aussi chez le travailleur et chez le capitaliste. Mettre le capitaliste au travail, c'est un très redoutable et difficile problème. Mais faire du travailleur un capitaliste, ben oui, c'est ce qu'on appelle le faire participer aux décisions et à l'organisation du travail. Mais en tout cas, pour Hegel, le travail dans sa pénibilité ne peut pas disparaître. Vous avez rappelé, madame, comment pour Hegel, en effet, il y a une vertu du négatif qui est telle que le négatif ne doit pas disparaître de la condition humaine. Bien sûr, la création, l'action pleinement entière, l'équivalent humain de l'action divine qui est une création. La création dans l'art, dans la religion, par identification à la création divine, ou dans la philosophie, voilà la véritable vie. Mais pour Hegel, il faut que le travail en sa négativité perdure toujours, parce que sinon, l'homme ne se formerait pas. Si l'homme n'était que créateur, s'il pouvait être d'emblée créateur et toujours créateur, il ne deviendrait jamais humain. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut mettre les créateurs et les intermittents du spectacle au travail, mais en tout cas, je pense que Hegel l'aurait pensé. Par conséquent, resituer le travail différemment, mais vouloir nier complètement le travail, je me demande si ce n'est pas nier une condition élémentaire et fondamentale de l'épanouissement de l'homme.
Non, mais dans un sens, je peux vous rassurer et rassurer Hegel avec vous, parce que quoi qu'on ait dit sur le fait qu'on n'avait pas besoin de travail pour créer de la valeur économique, malheureusement, c'est pas vrai. Et donc, cette permanence de la notion de travail, y compris dans son côté, pénible ou répétitif, etc., je ne crois pas qu'on soit encore très près de la supprimer. Mais madame, la richesse de votre communication a entraîné une richesse de questions absolument extraordinaire. Si vous devez répondre à toutes les questions qui vous ont été posées, je pense qu'il faut que nous nous fassions commander un dîner. Alors, vous allez faire ce que vous pouvez en répondant aux questions de mes confrères.
Merci beaucoup pour toutes vos questions. Sur les premières questions qui allaient beaucoup dans le même sens, sur la spécificité française, la question que pose la France, c'est plutôt la raison de savoir pourquoi nous avons une telle concentration d'organisation du travail non impliquante, je dirais, ou non responsabilisante. C'est-à-dire, pourquoi désormais la qualité du travail est-elle plus développée ou est-elle rendue plus possible dans les pays nordiques, mais aussi dans les pays anglo-saxons, qu'en France ou dans les pays méditerranéens? C'est-à-dire, voilà, la question centrale, c'est celle de la répartition de ces différents types d'organisation du travail dans les, différents pays. Alors, et là vraiment, je trouve que cette enquête de la Fondation de Dublin et des travaux qui ont été faits notamment par Duncan Galli à partir d'elle sont très très intéressants, puisqu'ils montrent vraiment qu'au-delà même des appartenances nationales, n'est-ce pas, il y a ce type d'organisation impliquant dans laquelle les salariés ont plus d'autonomie, ont plus de marge de manœuvre, ont plus de responsabilité et ont plus la main, en quelque sorte, sur leur destin. Voilà. Pourquoi y en a-t-il plus dans les pays nordiques que dans les pays méditerranéens? Et là, je pense qu'il faut continuer à faire des recherches. Sur, Monsieur le Président, je voulais m'excuser d'abord, en effet, où vous présentez mes excuses, parce que je ne me souvenais pas que vous m'aviez demandé de ne pas parler des 35 heures, qui en effet est un sujet hautement polémique, pardon. Sinon, bien sûr, je ne l'aurais pas fait. En même temps, ça a été un événement central pour notre pays, me semble-t-il. Mais donc voilà, je vous présente mes excuses.
Je n'avais pas l'intention d'exercer une censure dans votre communication. Je disais simplement que je ne souhaitais pas que le débat centre autour du débat des 35 heures, pour lequel il y a d'autres circonstances où ce débat a eu lieu.
Bien sûr. Vous avez évoqué Philippe Diribarne. On a été également très intéressés par ses travaux. Je pense que ses travaux expliquent notamment pourquoi... Enfin, moi, je suis très sensible à son type d'explication, à cette idée d'opposition entre ville et noble qui structurerait toujours notre société, et à cette idée que si nous sommes tellement attachés au travail, c'est peut-être aussi parce que dans nos sociétés, le travail dit quelque chose de notre statut et de notre diplôme et renverrait à l'extrême importance du diplôme dans nos sociétés. Ma liste. Pour les questions posées par Yvon Gattaz, merci beaucoup de toutes vos réflexions. Bien sûr que peut-être que à terme, les intérêts des salariés et des employeurs sont identiques. En même temps, je me faisais la réflexion en entendant plusieurs d'entre vous. Je pensais à un très, très beau livre, je ne sais pas si vous le connaissez, d'un monsieur qui s'appelle Abeoda Boisard, le créateur des Semaines sociales de France, qui écrit en 1910 un livre magnifique sur le contrat de travail, et qui nous dit en gros que pour la répartition du travail entre les différentes personnes, on est passé du communisme familial au régime inégal de répartition, c'est le salariat pour lui, et qu'il existe un troisième mode de répartition qui serait la répartition égale entre associés avec les coopératives, et il propose de raisonner comme en matière de régime politique où on est passé du paternalisme à la monarchie et à la démocratie. Donc en gros, il nous invite à passer à une troisième étape et à passer du salariat au régime de l'association. Qu'il considère lui-même comme un régime plus susceptible de considérer à égalité les employeurs et les salariés. Donc voilà, je pensais à lui, et c'est un petit peu aussi dans le développement de mes idées à cette idée d'association qui n'est peut-être plus possible, hein, que je songeais. Je pense qu'aussi une manière de répondre à vos différentes interrogations, vous dites que les employeurs sont très préoccupés du bien-être de leurs salariés, j'en suis tout à fait d'accord. Je pense simplement qu'il y a des types d'organisation du travail différentes et des types de... d'entreprises très différentes. C'est-à-dire que je crois qu'on peut dire que certains groupes sont relativement indifférents au bien-être de leurs salariés. On voit comment s'opèrent certaines restructurations qui sont extrêmement, parfois extrêmement sévères, extrêmement brutales. Et puis que, bien évidemment, il y a des entreprises qui peuvent être des entreprises familiales, mais aussi des groupes qui les traitent de manière différente. Donc je suis pour qu'on revienne à la prise en considération de l'hétérogénéité en cette matière. Et puis, tout ce que vous avez dit sur le travail libérateur, je ne crois pas avoir dit le contraire, hein. Je crois qu'au contraire, en effet, les jeunes, les femmes désirent profondément accéder à ce travail, mais à un travail qui serait un travail rêvé, en effet, on l'a dit, un travail idéal. Quant à la croissance, en effet, je ne crois pas qu'on va, mais j'aimerais beaucoup reprendre le dialogue avec vous. Je suis absolument pas une décroissante. Je pense simplement que nous sommes face, dans les 20 années à venir, face à une contradiction absolument majeure entre le fait que, oui, nous avons besoin de croissance pour sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons, et d'une manière générale que tous nos systèmes sont fondés sur la croissance et s'écroulent s'il n'y a pas de croissance, et qu'en même temps, si nous prenons au sérieux la crise écologique, nous allons devoir passer à un autre rythme de croissance ou à un autre type de croissance. Et je ne suis pas certaine que la croissance verte ou ce qu'on nous présente comme la croissance verte soit suffisant pour nous aider à atteindre les objectifs qui ont été indiqués par le GIEC. La question de Jean-Claude Casanova m'a beaucoup intéressée sur la division du travail. Alors, la question est revenue sur Marx à plusieurs reprises. Moi, je ne pense pas, en effet, je pense comme vous, que Marx ne voulait pas la suppression du travail, que Marx ne voulait pas la fin du travail. Alors c'est vrai qu'il dit des choses très différentes, il dit des choses dans le manuscrit 44 avec ses formules magnifiques. Il dit d'ailleurs, j'aime beaucoup à un moment, il dit que Smith n'a absolument rien compris au travail, puisqu'il continue à considérer le travail comme un sacrifice et une peine, alors que le travail est une fantastique liberté créatrice. Donc voilà, Smith n'a strictement rien compris. Je ne crois pas qu'il veuille la fin du travail, mais il veut un travail qui sans doute prenne moins de place et qui soit ce que j'ai essayé d'exposer, hein, qui soit vraiment un travail œuvre et un travail au-delà de la division du travail. Alors c'est en contradiction avec, bien sûr, la conclusion du Capital, où ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'il y aura toujours du sale boulot, en gros, et qu'il faudra faire en sorte de redistribuer ce sale boulot. Vous n'avez pas parlé dans l'ensemble des auteurs que vous avez cités, je dirais, de la polémique au-delà des siècles entre Durkheim et Friedman, c'est-à-dire Durkheim qui nous dit que c'est sur la division du travail exerce une fonction morale, c'est la division du travail qui tient la société ensemble, qui rend la société complètement cohésive, j'allais dire, pour employer un
ou n'a pas une idée qui vient de pas de
c'est méchant. Et vous vous souvenez que Durkheim nous dit que les formes pathologiques sont très très peu nombreuses, alors que Friedman, précisément, une fois qu'il aura constaté les dégâts que fait la division du travail aux États-Unis, reviendra et consacrera tout un chapitre du travail en miettes à montrer que, ou à tenir l'idée que Durkheim s'était complètement trompé, c'est-à-dire que d'une certaine manière, en soi, la division du travail est pathologique. La question suivante posée par M. Soutou, n'est-ce pas, je crois, sur la corrélation. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur l'emploi public. Et est-ce qu'on peut faire des corrélations entre le fait que l'emploi est très public, et puis M. Pébro a également demandé, dans le dernier slide que j'ai passé, la part du secteur public. Alors, je pense qu'en effet, il y a certaines pathologies, ou certaines souffrances, ou certains problèmes, ou un certain malaise, qui sont logés dans certains secteurs du service public ou des organisations publiques. Vous m'avez demandé combien il y avait de personnes qui avaient répondu à ce questionnaire qui avait été fait par Radio France avec trois personnes qui étaient Patrice Légeron, Yves Schwartz et moi-même. Mais je ne me souviens pas... Bon, ce n'est pas nous qui avions eu la dernière main sur le questionnaire. Peu importe, 6000 personnes avaient répondu à ce questionnaire qui, j'ai vraiment précisé, hein, aucune ambition représentative et un biais énorme puisque, bien sûr, on sait bien que les personnes viennent plutôt se plaindre. Mais il y avait aussi des personnes qui disaient combien leur travail était intéressant. Et il y avait beaucoup de témoignages. En bref, que voyait-on ? Qu'il s'agissait, je vous l'ai dit, de personnes hautement diplômées qui étaient en effet dans des organisations publiques ou parapubliques sans être fonctionnaires, puisque la moitié avait déjà été au chômage. Je pense plus généralement qu'une partie du malaise que j'ai exposé, en effet, est concentrée dans des secteurs qui ont subi des changements brutaux, trop brutaux, peut-être menés trop rapidement, comme on l'a vu en effet dans toutes les entreprises où il y avait eu des suicides. On m'a demandé s'il y avait plus de suicides dans d'autres pays ou autant de suicides ou autant de malaises. J'ai pas regardé autant, j'ai regardé les questions relatives à l'importance du travail, autant sur le stress, j'ai pas regardé, mais j'ai bien l'impression, je reviendrai avec des chiffres, hein, que la France est mal placée aussi dans l'ensemble des pays occidentaux. Alors, je me dépêche pour ne pas nous retarder. La méthodologie, j'y ai répondu. Peut-être, bon, je crois qu'on ne va pas se disputer sur la réduction du temps de travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études. Il y a deux grandes études qui ont été faites. Il y a celle qui a paru dans Économie et Statistique et les évaluations de la DARES. Moi, j'étais à la DARES à l'époque. Je crois que ça a été fait de façon très propre. Et puis, la fameuse étude de Bruno... Bref, les autres personnes de l'INSEE. Voilà, il y a une grande dispute entre économistes là-dessus. Je crois quand même, je ne m'y appesantirai pas, hein, parce qu'on a redit aussi la seule manière de créer de l'emploi, c'est de faire de la croissance. J'ai envie de retourner le propos et de dire, si jamais on ne pouvait plus faire de croissance comme avant, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour préserver l'égalité, pour permettre à chacun d'accéder à ce travail qui est désiré, est-ce qu'il ne faudrait pas refaire une étape de partage du travail? Mais j'ai bien vu que vous y étiez très opposés, donc je ne vais pas plus loin. Est-ce qu'on a des corrélations sur la mondialisation du commerce et la qualité du travail? Non, parce que je pense que c'est difficile d'isoler ce facteur, mondialisation du commerce, d'autres facteurs qui ont pu intervenir. Donc non, je n'en ai pas. Ce qu'on a, c'est pour notre pays et puis pour d'autres, des évolutions générales des conditions de travail. Alors, on a parlé de l'impact des 35 heures sur les conditions de travail. Là encore, il y a eu des études assez différentes. On sait très bien que dans certains secteurs et pour certaines personnes, les 35 heures se sont accompagnées d'une intensification des conditions de travail et d'une plus grande difficulté pour les salariés, en même temps d'ailleurs que d'une modération salariale. Alors, il est paru une dernière étude, assez récemment d'ailleurs, je crois, très 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 récemment, qui exploitait l'enquête française des conditions de travail et qui disait que les salariés qui avaient connu une réduction du temps de travail était en fait jouissait d'un meilleur bien-être au travail que les autres. Mais je suis d'accord que tout ça est tellement sujet à dispute que je ne vais pas vous brandir une étude plutôt qu'une autre. Disons qu'il y a énormément d'études qui disent des choses différentes sur ces sujets. Donc j'ai envie de terminer peut-être, dont je vous ai parlé de Abeoda Boisard qui me semble très, très important. J'ai envie de terminer sur Marx. Alors j'ai parlé de Marx non pas pour faire de la provocation, mais parce qu'en effet, il me semble que ce 19e siècle, avec Hegel, avec Marx, on a conclu là-dessus, le 19e siècle a mis au centre de nos idéaux le travail, et je vous rejoins complètement, hein, pour Hegel, le travail est quelque chose de très important, mais il y a des tas d'autres manières de mettre la société en valeur, de construire la société, de faire le monde. Et je crois que Marx, d'une certaine manière, a constitué une considérable réduction par rapport à Hegel en ramenant à une seule dimension, le travail, la multiplicité des possibilités de mettre le monde en valeur et de faire le monde, de transformer le monde et de se transformer soi-même. Voilà. Peut-être juste pour dire malgré tout que pour Marx, le travail, en fait, c'est l'activité humaine non empêchée, et je trouve qu'on retrouve aujourd'hui dans nos idéaux ou dans ce que racontent les gens sur ce qu'ils voudraient que le travail soit, on retrouve cette espérance que le travail puisse être une œuvre, mais qu'il puisse être aussi le moment de l'activité non empêchée. Et je reviens sur votre toute première question, hein. Bon, c'est bien joli tout ça, ces rêves sur le travail. Il y a aussi des considérations économiques. C'est vrai que moi, j'aimerais que nous parvenions, en nous rattachant à cette déclaration de Philadelphie qui me semble très importante, j'aimerais qu'on parvienne à concilier, peut-être mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, les attentes des salariés en matière de réalisation de soi, parce qu'elles sont source de motivation, comme vous l'avez dit, Monsieur Gattaz, et les contraintes économiques dans lesquelles, je le sais bien, sont plongées les entreprises. Merci en tout cas énormément pour vos réactions.
Merci madame. Cette académie s'était distinguée au XIXe siècle par le fameux rapport Villermé qui avait été le prélude à l'amélioration de la condition ouvrière et donc une amélioration du travail en France. Je ne crois pas que notre débat conduira à des conséquences aussi importantes. Mais je pense qu'il a été très intéressant pour tout le monde. Et je vous en remercie beaucoup.